Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Parole d'expert. Donc pour ce troisième épisode, nous sommes toujours avec Brigitte Munch. Bonjour Brigitte.
Bonjour Marjorie, bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent.
Oui, alors je fais un petit rappel rapide avant qu'on passe aux questions et à la thématique de notre épisode. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et vous avez débuté votre carrière comme professeur de philosophie. Dans ce troisième échange, nous allons aborder, après avoir abordé la qualité de présence et la question de comment faire ensemble et la notion de solidarité, nous avons choisi d'aborder cette fois-ci la question du retour en classe, qui est vraiment la question vive du moment, et nous demander comment se transforme la mission d'enseignement dans ce temps des retrouvailles qui vont avoir lieu là, progressivement, dans les jours, dans les semaines qui viennent, après 2 mois d'école à la maison. Donc voilà pour la thématique de cet épisode. Et donc vient la première question qu'on avait envie de vous poser, Brigitte Munch, c'est quels seraient, d'après vous, les points de vigilance à observer dans l'accueil des élèves en classe?
Alors, d'abord, pour pouvoir vraiment entrer dans la profondeur de compréhension de ce qui se passe maintenant et en tirer le meilleur profit pour pouvoir en faire le meilleur, le plus riche pour l'école et pour les élèves, pour les enfants, pour les jeunes, je voudrais faire un constat de ce qui se passe. Parce que je pense que si on va dans la profondeur du constat, on va aussi avoir des réponses beaucoup plus intéressantes. Ce temps de retrouvailles, la première chose qu'il faut constater, c'est qu'il est différent des temps habituels de vacances. La dispersion des élèves en dehors de l'école, de la classe, en tant que lieu concret, s'est faite uniquement dans l'espace, en fait, et non pas dans l'espace-temps. Il n'y a pas une suspension de l'école, comme pendant les vacances, mais une continuation du temps de l'apprentissage scolaire, et c'est seulement dans l'espace qu'on n'était plus réunis. Et donc, ça change complètement la vision de cette période, l'expérience, et la relation à l'école a changé. C'est une expérience vraiment nouvelle. On peut constater que les liens se sont transformés avec les enseignants. Ils sont souvent plus personnels. En tous les cas, d'une autre nature que ce qui se passe en classe, plus individualisé. L'autonomie a été exigée pour le travail pour les plus grands. L'entrée des parents dans le rôle de transmission pour les plus jeunes, mais ce rôle, c'était pas vraiment la transmission, plutôt le soutien à l'enseignant. Donc, il y a une véritable collaboration à trois, enfants, parents, enseignants. Mais parfois, ce rôle des parents est devenu pour les enfants une contrainte, avec tous les conflits qu'on connaît qui peuvent s'en suivre, liés à la complexité de la vie affective à la maison. Et enfin, un point très important, c'est que le partage de groupe, la vie de groupe, la vie de classe n'a pas eu lieu. Donc, il y a eu une séparation d'avec les copains et le plus souvent, les enfants ont perdu le contact avec beaucoup d'enfants avec lesquels ils sont quotidiennement en temps normal. Donc, tous ces constats ensemble nous amènent à constater qu'on ne peut pas rembrayer, comme le dit d'ailleurs très bien ce vocabulaire un peu mécanique, on ne peut pas rembrayer, on ne peut pas être comme une mécanique et reprendre la classe comme si de rien n'était. Ou alors on va manquer une occasion unique de relier la vie des élèves, le récit intime du vécu de ce qui s'est passé là, avec la connaissance. Et ce que je voudrais dire là, c'est que, oui, vous savez, les grands écrivains, les grands scientifiques, les Hubert Reeves, les personnages comme ça qui nous émerveillent par leur curiosité, leur intelligence, par leur rapport à la connaissance de l'humanité, très souvent, quand ils racontent leur vie, disent « Il s'est passé tel événement dans ma vie, et à partir de ce moment-là, je me suis passionnée pour ça, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu apprendre et j'ai voulu savoir. » Et je crois que ce qui vient de nous arriver, ce qui est en train de nous arriver, c'est un levier extraordinaire pour ça, pour que nous réussissions à, si nous nous y prenons bien, à utiliser en quelque sorte l'expérience du confinement et l'expérience du danger sanitaire comme une expérience qui va lever des interrogations, du coup, éveiller de la curiosité, demander à comprendre, mais cette histoire d'une motivation liée à des vécus profonds personnels est extrêmement importante. On l'a tous vécu à un moment donné. C'est pour ça qu'on a choisi, moi, la philosophie, d'autres la science, d'autres la littérature. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour pouvoir, on va essayer de voir comment s'y prendre pour pouvoir réussir. La première chose, je pense que c'est d'offrir un accueil dans un espace transformé par la distance physique. Moi, je n'aime pas cette expression de distanciation sociale parce que ça voudrait dire que nous n'avons plus de relation. Et ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas une distanciation sociale, c'est une distanciation uniquement physique. Nos liens sont peut-être plus forts que jamais parce qu'ils deviennent essentiels. Mais les enseignants vont se retrouver dans un nouveau rapport à l'espace. Alors, c'est l'occasion d'une petite guerre avec des sanctions, avec des interdits, ou l'occasion de jeux, de rire, d'un apprentissage commun, complice, entre les enseignants et les élèves, parce que ce n'est pas si évident. Il va falloir se mouvoir et bouger autrement. On ne s'approche plus des autres avec la même liberté et insouciance. Il va falloir prendre soin de soi avec les masques, et ça ne va pas être facile du tout. Il va falloir prendre soin des autres en préservant les autres par notre manière de nous mouvoir, de crier, de chuchoter, de rire, etc., etc. Donc, la première chose, c'est prendre en compte ces aspects et peut-être prendre le temps au début d'installer un vivre ensemble différent autour de cette question d'un espace transformé. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est l'accueil de leurs paroles. La chose la plus importante dans la transition des, disons, 2-3 premiers jours, au moins, me semble-t-il, c'est indispensable, c'est de ne pas dire pour eux, mais de leur donner la parole. De ne surtout pas diriger, mais de les écouter. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est essentiel. Il y a eu des vécus très profonds, pas seulement émotionnels certes, mais beaucoup plus profonds, affectifs, autour de la famille, de la vie, du sens de la vie, de la mort, présente, même si c'est seulement sous forme de menace, quelquefois présente en vrai dans certaines familles, de la maladie et de la séparation. Quel a été le vécu des élèves? Comment donner place à leur récit par des partages, par des rires, par des échanges, par des petits jeux de théâtre, pourquoi pas, par des expressions physiques, pourquoi pas, peu importe, pourvu qu'ils réussissent à dire qu'est-ce que ça change pour eux d'avoir vécu cela? Qu'est-ce que ça change pour eux? Parce que ça va permettre d'accrocher à nos domaines du savoir. Et ce récit personnel, si on s'y prend bien, il va ouvrir à des questions. Et à ce moment-là, notre rôle, je crois, en tant qu'enseignant, c'est de saisir ces questionnements que les enfants, les adolescents vont nous confier et se confier entre eux pour pouvoir reprendre des domaines de la connaissance. Donc, désir de comprendre, désir de savoir, qu'est-ce que c'est un virus, qu'est-ce que c'est dans la littérature, comment il y a des textes qui nous parlent de la solitude, de l'isolement, de la séparation, de la maladie. On a beaucoup parlé de la peste de Camus, mais il y en a plein d'autres, selon les niveaux des enfants. Bon, évidemment, dans la science, la possibilité ensuite d'ouvrir la connaissance, mais à partir de ce vécu. Voilà ce que je dirais d'essentiel pour les points de vigilance.
D'accord. Merci Brigitte. Si je reformule un petit peu ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, il va y avoir une importance de ces premiers jours dont vous avez parlé pour accueillir la parole des enfants et laisser la place au récit. Et ça va être la créativité des enseignants en fonction de l'âge des élèves qu'ils ont, devant eux, de trouver les manières de faire en sorte d'intégrer finalement ce qu'ils ont vécu dans cette phase d'école à la maison, de l'intégrer complètement à cette reprise de l'école, si j'ai bien compris. Parce que
c'est
vous
tout
dites,
à fait ça.
Vous dites oui. Qu'il faut donner du sens à ce qui a été vécu, et donc c'est par ce biais-là. Donc, est-ce que vous pourriez nous préciser
c'est tout à fait ça.
Aussi dans quel état d'esprit, finalement, on peut être pour reprendre le travail ensemble en classe?
Tout à fait. Alors, je reprends déjà ce que vous venez de dire, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que cette reprise n'est pas une reprise, vraiment. C'est une reprise avec certains enfants, les autres seront à la maison. Le choix va être extrêmement complexe, arbitraire, de la part des familles, etc. C'est pas la vie de classe qui reprend, C'est pas une école normale qui reprend aux vacances d'été. C'est tout à fait une autre expérience. Et je voudrais vraiment insister pour que les enseignants prennent la mesure de ça. N'enferme pas les enfants dans simplement on se reprend et vite, vite, on travaille comme avant. Même si le rôle de l'école reste évidemment de transmettre la connaissance. Donc, dans quel état d'esprit? Eh ben, je pense qu'il y a des choses on va peut-être parler d'abord des choses à éviter, puis ensuite, je suggérerai des pistes qui peuvent être des très bons points d'appui, me semble-t-il, pour pouvoir redonner le désir du travail en classe et du soutien du travail en classe pour ceux qui n'y sont pas. Alors, les premières choses à éviter, c'est remettre tout de suite les enfants dans un stress de rythme, leur donner le sentiment que les quelques semaines qu'il y a avant l'été, ces semaines vont devoir se faire à toute vitesse, qu'il faudra rattraper des choses en termes de connaissances, qu'on a pris du retard, qu'on a perdu du temps. On le dit partout, mais je le redis quand même, l'angoisse de l'enseignant est ressentie par les élèves, même si elle n'est pas exprimée verbalement. Elle est ressentie. Donc le choix du langage, le choix des mots, le fait d'inviter à partager, le fait d'être peut-être dans une attitude moins directive, ce qui sera d'autant plus facilité qu'il y aura moins d'élèves en classe. Pour faire place aux élèves, pour qu'ils sentent qu'on est là pour eux, pas que pour leur enseigner, mais pour eux, pour les personnes qu'ils sont, afin qu'ils retrouvent le plaisir d'apprendre ensemble. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi en préparant cette émission. Qu'est-ce qui est la spécificité de la classe? C'est d'apprendre ensemble. Parce qu'apprendre, on peut le faire absolument partout dans la vie. Et ils n'ont d'ailleurs pas cessé de le faire. Il y a eu des apprentissages scolaires hors classe, mais il y a eu aussi plein d'autres apprentissages de vie fondamentaux pendant cette période. Donc, la question, ce n'est pas apprendre. La question, c'est apprendre ensemble. C'est ça la spécificité de se retrouver en classe. Et ça change tout d'apprendre ensemble. Donc, il y a certains clivages habituel, où les enfants sont un petit peu, surtout chez les ados quelquefois, dans une sorte de résistance à l'obligation d'être à l'école. Il y a certains clivages qui peuvent complètement sauter si on évite de remettre la pression, mais qu'on ose se donner ce plaisir d'être ensemble, ou au contraire qui vont se renforcer si on ne leur fait pas confiance. La deuxième chose à éviter, je crois, c'est de laisser s'établir une stigmatisation et une ségrégation entre ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas travaillé ou pas beaucoup travaillé, ceux qui ont acquis des notions, quelquefois même d'énormes notions parce qu'ils sont très soutenus familialement, et ceux qui n'ont pas pu le faire, ceux qui sont présents en classe et ceux qui sont restés à la maison, etc., etc. Il y a un vrai risque, je crois, de stigmatisation, de ségrégation, au nom d'une forme de compétition dans laquelle, quelquefois, on s'égare. Donc, je crois que on pourrait s'amuser à inventer des liens entre les enfants qui seront en classe et qu'on pourrait appeler les explorateurs puisqu'ils viennent en premier, et puis ceux qui vont rester confinés. Parce que je crois que ça va être très très important de ne pas travailler pour l'enseignant déjà, pour l'énorme fatigue que ça représente pour l'enseignant de travailler de manière très coupée entre ce qu'il va devoir faire par Internet pour les élèves restés à la maison et ce que l'enseignant va devoir faire pour les élèves en classe. Pourquoi ne pas travailler ensemble? Appeler chaque jour, par exemple, les élèves en classe appellent chaque jour un des élèves restés à la maison qui raconte ce qu'il est en train de faire. Créer des liens, s'envoyer des textes, voilà. Créer du lien entre les deux parts de la classe, celle qui est physiquement là et celle qui n'est pas physiquement là. De sorte qu'on recrée cette force du groupe. Et ça, moi, je crois que c'est vraiment, vraiment important. Et ça va faciliter la tâche des enseignants et ça va donner une dynamique très, 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 très joyeuse en fait à la classe. Je suis sûre que les enfants vont adorer se servir de l'informatique pour joindre leurs camarades, pour qu'ils racontent ou pour qu'eux racontent ce qu'ils font en classe. Je pense que ça peut être des pistes pour éviter tout type d'individualisation des parcours, je dirais, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire individualiser les parcours pour être à l'écoute de chacun selon là où il est, lui, individualiser au sens que chacun est tout seul et que on se met en compétition et vite, vite, tant mieux pour ceux qui arrivent à travailler dans ces conditions, je pense que ce serait regrettable.
Là, ce que vous nous dites, c'est qu'on a une, on a une, c'est comme ce que vous aviez dit à d'autres occasions lors d'autres enregistrements, c'est les choses vont pas être forcément simples, mais ça peut être aussi une opportunité. Voilà, il peut y avoir des pistes de quelque chose d'un peu nouveau qui pourrait accrocher les élèves. C'est faire le lien, effectivement, de ce groupe classe qui va être en partie coupé par la façon dont va se faire la reprise durant ce fameux mois de mai. J'aurais une question
Tout à
complémentaire.
fait,
Oui.
tout à fait.
J'aurais juste une.
Pourquoi même ne pas proposer que certains enfants sont entre guillemets responsables d'un autre enfant qui est resté confiné pour partager les devoirs qu'il y a à faire ou le travail qu'il y a à faire, etc. On peut imaginer plein de
Oui.
solutions pour créer des liens d'une autre nature qui les responsabilise et qui va être beaucoup plus agréable pour l'enseignant.
Oui, et effectivement, là, ça ouvre aussi la porte à la créativité, à trouver des solutions que les élèves d'ailleurs pourront formuler eux-mêmes. Ils auront peut-être aussi des idées dans ce moment de l'accueil de la parole. C'est peut-être quelque chose qui pourra être envisagé par l'enseignant s'il le
C'est
souhaite.
certain, c'est certain, c'est certain, et je crois que c'est une occasion extraordinairement unique qui nous est offerte. On n'aura probablement pas d'autre occasion d'être pendant 2 mois comme ça dans une situation un peu hybride, avec l'appel à des choses qui se passent à la maison, l'appel à la possibilité de revenir sur des notions qui n'avaient pas été comprises, de les mettre en lien avec les événements, de donner du sens à un autre niveau. Il y a beaucoup à dire. Ce qu'on vient de vivre touche, moi j'ai envie de dire, tous les domaines de la connaissance. Ça touche à la recherche scientifique, ça touche au sens, à la biologie, aux sciences de la vie, ça touche à toute la littérature sur les vécus intérieurs, ça touche à la question de la vie en général. Enfin, je crois qu'on peut faire le lien et donner du plaisir à découvrir et du coup à redevenir curieux et du coup à avoir envie de s'y mettre, comme on dit, vraiment de creuser des domaines comme on a rarement l'occasion. La vraie rentrée se fera au plus tôt en septembre, on le sait tous. Donc voilà, pourquoi ne pas profiter de ce temps pour ouvrir à ça?
Merci Brigitte pour ces éclairages, pour ces pistes concrètes pour les enseignants, pour les familles. Et on le voit bien, tout ça, c'est vraiment pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre le mieux possible cette période transitoire qui va être la reprise progressive de la classe pour certains élèves. Je voudrais vous passer une dernière fois la parole pour conclure ce moment ensemble, pour que vous puissiez nous parler du lien avec les parents et avec les familles, qui a été particulier, qui a été modifié, transformé pendant cette période particulière. Et voilà, je voudrais que vous nous disiez 2 mots un petit peu de ce lien entre les parents, qui du coup vont être aussi dans des situations très différentes avec cette reprise progressive du mois de mai.
Oui, alors effectivement, encore une fois, on va faire un constat, c'est que le lien entre les familles et les enseignants a fondamentalement changé. Moi, j'en ai des échos tous les jours. Les parents, d'habitude, sont quand même tenus à l'écart de l'école. Ils s'occupent des devoirs à la maison ou ils soutiennent leurs enfants dans les devoirs à la maison, mais ils n'entrent pas réellement dans la vie de l'école, même si on y a tous été. Ça change et on n'est pas au fait de ce qui se passe en classe pour nos enfants. Et là, tout à coup, les parents ont été en situation de voir ce que c'est que la difficulté d'aider les enfants à se mettre au travail, à achever leur travail, à avoir le plaisir de le faire, etc., etc. Donc, je pense qu'ils ont transformé leur regard sur les enseignants, qu'il y a beaucoup plus de compassion, de compréhension de la difficulté du métier, de sa valeur. Je pense qu'il y a beaucoup plus aussi d'ouverture de la part des enseignants sur les familles, soit dans la conscience de difficultés qu'on ne soupçonnait pas. Donc nos liens sont resserrés, sont plus affectifs dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de respect mutuel, de reconnaissance mutuelle. Et là encore, ce serait merveilleux de ne pas perdre ce trésor, mais de le cultiver. Ça ne va pas être facile pour les parents de remettre leurs enfants à l'école quand ils y sont obligés par leur travail ou pour d'autres raisons. Ça ne va être pas facile pour les parents de garder leurs enfants à la maison quand d'autres sont à l'école. Autant que possible, essayons, je pense, là encore, d'éviter de laisser place à de l'isolement ou des formes de stigmatisation, de jugement. On ne peut pas préjuger des raisons pour lesquelles les parents ont laissé leurs enfants venir à l'école ou les ont gardés à la maison et qu'il faut éviter Il faut absolument, entre nous, enseignants, mais aussi évidemment avec les enfants, éviter de laisser s'instaurer ou se dire des jugements sur les uns ou les autres qui isoleraient certains.
Effectivement, c'est dans des épisodes comme celui-là qu'on a ce genre de risque de stigmatisation de groupe. Vous avez raison évidemment de le préciser, puisque la façon dont est organisée cette rentrée avec une rentrée des enfants sur la base du volontariat, ça va nécessairement se poser. Donc merci beaucoup Brigitte pour tous ces éléments, pour tous ces éclairages. Et on se donne rendez-vous prochainement dans un échange avec les enseignants qui le souhaiteraient, avec les familles qui souhaiteraient pouvoir questionner ce retour. Ce retour à la maison, et on vous dit à très vite dans un prochain Parole d'expert.
Merci beaucoup, avec plaisir.